Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la Tribune de l'Art, avec aujourd'hui un marchand de dessin, Nicolas Chouette. Bonjour Nicolas.
Bonjour Monsieur Rickner.
Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être marchand de dessin ?
J'ai commencé ma carrière dans le dessin exactement en septembre 1993. J'avais refusé un stage chez Honeywell Bull d'informatique en me disant que j'allais faire un stage chez Christie's en dessin, ce qui m'amuserait beaucoup plus.
C'est pas du tout pareil.
En fait, j'ai même pas refusé un stage, j'ai refusé un vrai travail salarié. J'ai bien fait de toute façon, parce que Honeywell Bull a fait faillite peu de temps après, ou semi-faillite. Donc j'ai commencé à Londres en septembre 1993 comme stagiaire au département de dessin. Je suis resté stagiaire assez longtemps, quelque chose comme 4, 5, 6 mois, où j'ai fait différents départements, incluant ce qu'on appelle à Londres le front counter, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était en bas, il y a un comptoir spécial où les gens venaient vraiment tous les jours, ils amenaient des choses qu'ils voulaient vendre. Et donc mon travail là, c'était de déterminer ce qu'était le type d'objet, d'appeler le département, et l'expert devait descendre dans les 5 minutes généralement, mais ça prenait souvent 3 quarts d'heure, regarder l'objet, le prendre ou pas pour la vente. Et j'ai travaillé là pendant 3 mois, et d'ailleurs j'ai été 6 ans à Londres, et
n'allez pas trop
pendant
vite.
Les 6 ans à Londres, j'ai fini avec le front counter. Il y a souvent des très jolies choses qui arrivaient comme ça, c'est-à-dire que les gens amenaient sans rendez-vous des choses qui étaient quelquefois absolument formidables. J'ai eu des très 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 beaux dessins par là. Donc 6 mois de stage chez Christie's, et ensuite j'ai été engagé, je suis resté 6 ans à Londres en dessin, 2 ans à New York toujours en dessin, 4 ans à Paris toujours en dessin, et ensuite en 2005 j'ai quitté Christie's pour devenir marchand.
Vous allez trop vite en fait, parce que pourquoi est-ce qu'on donne chez Christie's un poste comme celui-ci qui est finalement un premier triage à quelqu'un qui vient de chez Honeywell Bull? Vous vous intéressez forcément à l'histoire de l'art avant, vous aviez une tendance à connaître un petit peu tout ça, comment ça s'est passé?
Je connaissais un peu le dessin, j'étais pas très vieux, j'avais 25 ans, mais les Anglais, ils sont beaucoup plus pragmatiques que les Français. En fait, ils m'ont jamais demandé ce que j'ai fait comme études. Ils estimaient que j'avais des connaissances suffisantes pour quelqu'un de mon âge et une envie suffisante de le faire et un œil suffisamment bon pour pouvoir apprendre. Ça leur est même pas venu à l'esprit de demander ce que j'ai fait comme études. Et donc j'ai fait les interviews qu'il fallait et puis ils m'ont gardé. Mais les Anglais sont très pragmatiques. Si vous demandez aux gens de la City, la plupart des gens de la City ont fait histoire, latin ou n'importe quoi à l'université et ensuite ils font autre chose. En France, c'est sûr que si on n'a pas eu faire de l'art, le cursus d'histoire de l'art, l'école du Louvre, quelque chose comme ça, c'est plus compliqué. Donc bon, voilà, ils m'ont posé des questions, ils ont considéré que j'étais suffisamment motivé en tout cas. Et voilà. Mais de toute façon, la méthode que Christie's a toujours utilisée pour engager des gens, ils engagent des gens qu'ils estiment être capables et intelligents, et ensuite ils se disent que si les gens sont assez motivés, ils vont apprendre leur sujet.
Mais alors comment sont-ils arrivés vers vous? C'est ça la question, parce que vous vous intéressez à ça depuis longtemps, vous les avez rencontrés comment?
J'avais fait des études d'une école de commerce, et j'avais fait, je m'intéressais déjà au dessin, et j'avais fait une espèce de thèse de fin d'études, vaguement en rapport avec le marché du dessin. Et donc, ils ont eu vent de ce machin, ils m'ont proposé un stage. Et ce stage, ils m'ont proposé en 91, 12, mais je dois faire mon service militaire. Donc. Et donc, j'ai attendu la fin, et puis voilà, et je suis arrivé chez Christie's. Donc, voilà.
Et ensuite, vous êtes formé donc, sur le tas, finalement, en voyant des dessins, en travaillant sur les dessins.
On ne peut pas dire mieux, c'est-à-dire sur le tas de dessins. À l'époque, quand j'ai commencé à Christie's en 93 et 94, il y avait une grosse vente en janvier à New York, une vente en avril, une vente en juin, une vente en juillet, une vente en octobre, une vente en décembre.
6 ventes donc ?
Mais 6, 7 ventes, plus les petites choses, à chaque fois entre 200 et 300 lots. numéro, et dans chaque numéro, il pouvait de temps en temps y avoir 5-10 dessins. Je me souviens d'une vente en particulier qui a lieu en 95, où il y avait à peu près 3000 dessins dans cette vente. Donc à l'époque, quand vous dites qu'on apprend sur le tas, oui, c'est vrai, sur le tas de dessins, c'est-à-dire que tous les jours, il y avait toutes les semaines, en tout cas, des centaines de dessins ou beaucoup de dessins qui arrivaient. Il fallait les décadrer, ça c'était ce que je faisais en partie, décadrer les dessins, les ranger, les cataloguer, faire les recherches, toutes les attributions, écrire une notice. Ça c'est la partie avant le catalogue. Et ensuite, la vente venait, il fallait les vendre. Mais ce qui fait que pendant au moins les 6 ans où j'étais à Londres, j'ai dû voir, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dessins, mais énormément. Donc, si on est un peu motivé et qu'on travaille beaucoup, on finit par apprendre.
Alors, on verra tout à l'heure sur l'œil, mais il faut quand même. Il y a des gens qui sont motivés, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas forcément un bon œil. Vous, j'ai pu constater à maintes reprises, je vous appelle des fois une machine à attribuer, c'est un petit peu excessif, mais c'est un peu ça. Vous avez. Vous voyez un dessin et vous, tout de suite, vous pensez à l'artiste. Vous pouvez peut-être vous tromper, ça peut vous arriver, je suppose.
Oh, si peu.
Mais, non, mais non, c'est non. Vraiment quelque chose, c'est un phénomène
non,
assez étonnant.
Je pense vraiment que c'est une question de motivation et de travail. Si on aime vraiment ça et qu'on travaille beaucoup, on y arrive. Je pense que c'est vraiment l'œil. Il faut avoir de l'œil, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un œil naturel, en tout cas pour les attributions, pour ce genre de choses. Peut-être pour la qualité, c'est un peu différent. Moi, je vois beaucoup de collectionneurs ou de collègues qui n'ont pas énormément de connaissances, mais qui arrivent très bien à déterminer la qualité et à voir quelles sont les bonnes choses. Ça, c'est peut-être une chose plus naturelle. Mais pour les attributions, reconnaître les choses, je pense que c'est beaucoup, beaucoup une question de travail et de motivation.
Donc fréquenter les musées, lire les livres.
Fréquenter les musées, voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins, des bons et des mauvais, parler à beaucoup de collègues, et il n'y a rien de mieux pour apprendre que quand quelqu'un qui en sait plus que vous, vous regardez des dessins avec vous, il vous montre deux, trois petites choses, mais ça peut être des choses complètement idiotes, mais parler avec les collègues et se faire montrer par des gens... plus capable ou autant capable, c'est extrêmement utile. Ça vaut beaucoup plus que lire 36 livres.
Dans votre formation, quelles sont les personnes qui vous ont marqué, les spécialistes qui vous ont marqué, qui vous ont appris beaucoup?
Quand j'étais chez Christie's, j'ai rencontré évidemment énormément de monde. Il y avait les gens qui travaillaient à l'interne. Donc quand je suis arrivé chez Christie's, les gens qui travaillaient avec moi, c'était le senior, le plus âgé, était Noah Nussle, qui lui avait commencé chez Christie's dans l'année 60, en 63-64, qui est encore aujourd'hui un grand connaisseur de dessin et de gravure. Quelqu'un d'autre qui s'appelait Francis Russell, qui était tout aussi bon, plutôt lui c'était dessin tableau. C'était des gens qui connaissaient vraiment bien, qui avaient vraiment un œil pour la qualité d'attribution, qui étaient très rapides, parce que si l'œil, c'est avec la rapidité, parce que si on sort une attribution 3 semaines après, c'est plus très utile. Et dans le département plus précisément, il y avait deux autres personnes. Il y avait le chef du département quand je suis arrivé, qui était Hugo Chapman, avec qui j'ai travaillé pendant un an et demi, qui ensuite est parti au British Museum, qui était quelqu'un de très 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 bon en dessin italien, et avec François Borne, qui est quelqu'un qui était là depuis un peu moins quelques années aussi, qui était très bon en dessin français. Donc en fréquentant ces quatre personnes, j'ai appris énormément de choses, et évidemment quand on est chez Christie's, il y a énormément de spécialistes extérieurs qui viennent voir des dessins, avec qui on peut avoir des liens d'amitié, discuter, donc... Dans les années 90, j'ai rencontré énormément de monde, la plupart ont disparu, des gens comme John Gear et autres, avec qui j'ai eu des conversations plus ou moins courtes, plus ou moins longues, et avec qui j'ai beaucoup appris, quelqu'un comme John Gear, que j'ai pas beaucoup vu, mais quelqu'un comme Alistair Lang, Fritz Corini, et bien d'autres que j'ai rencontrés.
Et pour le dessin, donc, vous auriez pu aussi vous orienter vers la peinture, voire vers la sculpture ou les objets d'art. Pourquoi le dessin? C'était dès le départ le dessin qui vous intéressait plus?
Oui.
Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à cela?
Oui, un petit peu, parce que mes parents collectionnaient un petit peu, ils avaient un peu de tableaux, un peu de dessins, des différentes choses. Je me suis plus intéressé au dessin. Et il y avait quelques livres à la maison quand j'étais jeune, donc je feuilletais les livres et c'est ça qui m'intéressait.
Et donc vous êtes allé à Londres, ensuite à New York, et vous êtes revenu à Paris, et vous êtes devenu le responsable des dessins pour tout Christie's.
Oui, New York, j'étais responsable des États-Unis, à Paris, de tout Christie's, exactement. À cette époque-là, il y avait un peu moins de ventes. Il n'y avait plus les ventes d'avril, il n'y avait plus les ventes d'octobre, et je ne suis même pas sûr qu'il y avait encore les ventes de décembre. Donc on avait janvier, à janvier, mars à Paris, et juillet, et des petites choses en décembre. En décembre, j'avais une petite vente à Paris. Mais bon, il y avait tout, beaucoup moins de ventes, en partie parce que il y avait déjà beaucoup moins de dessins sur le marché que 7-8 ans avant.
Et pourquoi en ces 8 ans y a-t-il eu autant d'assèchement du marché? Enfin, pas d'assèchement, il y a encore des. Même aujourd'hui, il y a encore des dessins, mais il y en a de moins en moins sur le marché. Est-ce que c'est dû à des questions de collectionneurs qui gardent leurs œuvres? Est-ce que c'est les musées qui achètent beaucoup? Pourquoi?
Alors, si j'avais la réponse, je serais riche aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'entre le moment où je suis rentré chez Christie's et je suis arrivé à Paris, où je suis quitté Paris, il y avait déjà beaucoup moins de choses sur le marché. Et par rapport à 2005 et aujourd'hui, ça s'est encore plus fortement diminué. À l'époque, je m'en souviens, on pouvait faire des belles ventes à New York ou à Londres, en rassemblant différents dépôts de propriétaires, c'est-à-dire on avait 15, 20 ou 25 vendeurs, et on faisait une vente qui tenait la route. Aujourd'hui, quand on voit les ventes du Christie's Sotheby's, s'il n'y a pas une collection un peu importante qui arrive, ils n'arrivent pas complètement à faire des ventes qui tiennent la route. C'est-à-dire il y a deux, trois belles feuilles, une quinzaine de feuilles acceptables, et le reste, c'est pas terrible. C'est un peu souvent le cas aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que les musées écrèment beaucoup, ont écrémé, en tout cas un peu moins maintenant, le marché. C'est-à-dire, ils ont acheté, même s'ils achètent que 3% de ce qu'il y a de mieux, bah, sur 20 ou 25 ans, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'avec les générations, peut-être qu'il y a beaucoup de beaux dessins qui sont sortis sur le marché. Il y a aussi moins de collectionneurs, probablement. En Angleterre, par exemple, qui était un pays de vrais collectionneurs, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. En Amérique, il y en a encore beaucoup. Et la France, évidemment, énormément. Mais peut-être qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Je ne peux pas très bien expliquer pourquoi il y a moins de choses aujourd'hui qu'avant. Mais en tout cas, c'est net qu'il y a beaucoup moins de choses.
En revanche, les dessins depuis 20 ont diminué en fait en nombre, mais ont augmenté en prix. Sauf que peut-être la tendance est en train de s'inverser. En fait, c'est bien Chatsworth, la vente de Chatsworth, les dessins de Chatsworth qui a fait que le dessin a explosé. On a l'impression parfois, Enfin, on avait parfois l'impression que les dessins, certains dessins étaient plus chers que des peintures par les mêmes artistes. Est-ce que c'est toujours le cas et quelle est l'évolution du marché, justement comme...
Alors, si certains dessins sont plus chers que les tableaux, c'est qu'ils sont meilleurs dessinateurs que peintres, souvent. Et c'est vrai peut-être aussi que la qualité de ce qu'on peut trouver en dessin est peut-être meilleure que ce qu'on peut trouver en tableau. Oui, on dit souvent que c'est la vente de 84 de Chatsworth et éventuellement 87 qui a fait monter les prix. C'était une vente extraordinaire qui n'a jamais été égalée depuis. Chatsworth, c'est une collection qui a été formée principalement par le deuxième duc de Devonshire vers 1700, qui est resté. C'est une collection où il y a des Léonard de Vinci, Raphaël, enfin c'est une collection extraordinaire qui est encore privée aujourd'hui. Et en 84, ils avaient besoin de refaire leur toiture, quelque chose comme ça. Donc ils ont vendu une cinquantaine de dessins qui ont été sélectionnés pour pas trop abîmer le reste de la collection. Et c'était une vente extraordinaire où il y avait tout ce que vous voulez de formidable. Et les prix ont été énormes et on dit que c'est le départ de ça. Mais peut-être que c'est aussi différentes personnes qui ont pu faire la chose. C'était aussi les débuts de l'achat, des achats du Getty. Goldner qui arrivait au Getty et qui avait des moyens à ce moment-là énormes pour acheter et qui a voulu faire rapidement une très belle collection. Il y avait aussi des gens comme Woodner qui était richissime, qui était encore sur le marché et qui achetait. Et quand Woodner voulait un dessin, bon, il l'achetait. Donc évidemment, quand il y a des gens comme George Grosvenor contre lui, ça fait monter les prix. Donc à l'époque, il y avait encore 5, 6, 7 gros acheteurs. Et donc, voilà. Mais il suffit de trop. Encore aujourd'hui, il suffit de 1 ou 2 ou 3 gros acheteurs pour faire monter les prix.
Il y en a aux États-Unis, par exemple.
Aux États-Unis, les plus gros acheteurs de dessins, aujourd'hui, il n'y a aucun doute qu'ils sont aux États-Unis. Oui, et le plus grand collectionneur, il est aux États-Unis. C'est un secret pour personne. Il s'appelle Léon Black. Et il a rassemblé une collection de dessins depuis 25 ans qui est probablement la plus belle collection de dessins rassemblée depuis... par un privé depuis, c'est difficile à dire, 100 ans, 150 ans, des choses extraordinaires. Mais évidemment, lui, il collectionne plutôt par le haut que par le bas. Ce qui veut dire, pour répondre à votre question précédente, le prix des très bons dessins a évidemment beaucoup augmenté parce qu'ils sont devenus plus rares. Mais ce qui est resté stable ou presque à la baisse, c'est le prix des dessins un peu moyens de gamme, les choses pas très rares... Et les choses compliquées aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les collectionneurs ou les conservateurs un peu intellectuels qu'il y avait avant, qui comprenaient bien le dessin 16e ou le dessin maniériste italien, qui achetaient ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Donc,
Mais il reste des dessins, ça veut dire qu'ils vont baisser, qu'on pourra peut-être en acheter plus facilement.
Ah oui, aucun doute. Quand on voit certains dessins, il y a une collection qui s'est vendue récemment à New York. Je pense que quasiment tous les dessins, par rapport à leur période d'achat il y a 20 ans, ont été vendus à perte. Oui, aujourd'hui encore, on peut, si on n'est pas richissime et si on va dans un domaine qui est un petit peu délaissé, on peut trouver des très belles choses pour des prix vraiment modiques. C'est-à-dire, par prix modique, je veux dire, entre 2000 et 6000, on peut encore trouver un très beau dessin d'un artiste maniériste italien ou un dessin baroque, ou une chose française 18e, et c'est des choses qui sont un peu délaissées aujourd'hui, donc oui, on peut encore trouver. Alors est-ce que tout ça va monter dans 5-10 ans? C'est pas sûr du tout, mais on peut encore aujourd'hui former des belles collections. Après, si on cherche des choses très prestigieuses, très importantes, c'est un marché différent.
Oui, on veut Raphaël, le Léonard, ça, on n'aura pas ça pour ce prix-là.
Non.
Et on en trouvera même presque plus, enfin il y en a très peu.
Léonard, il y en a un qui est sorti récemment, et Raphaël, c'est sûr que quand ça sort, c'est des millions d'euros.
Ce Léonard de Vinci, est-ce qu'il va se vendre quelque part? Vous avez des nouvelles? Vous pouvez le dire, je ne sais pas si vous ne pouvez pas le dire, ne le dites pas. Mais...
il a été vendu récemment, mais ce n'est pas à moi de dire où et qui. Mais,
c'est la tribune de l'art peut-être de chercher.
La tribune de l'art le trouvera très facilement et pourra l'annoncer.
Enfin, l'important c'est que c'est un musée, si ce n'est pas un musée, donc ce n'est pas un musée, donc voilà. On en parlera quand il rentrera un jour dans un musée. En tout cas, ce dessin qui avait été classé trésor national, je le rappelle, à mon avis, ne le méritait pas parce qu'il y avait l'équivalent avec son musée national Et d'ailleurs, je sais, abordons d'ailleurs ce sujet des... Moi, vous savez que la Tribune de l'Art défend les trésors nationaux parce que je considère qu'il y a des œuvres qui doivent rester sur le territoire français, contrairement à ce que certains pensent, pas toutes les œuvres. Vous, vous êtes plus mesuré, c'est-à-dire que souvent, vous trouvez que les musées achètent trop.
Oui, c'est, on dirait que c'est presque une question de fierté nationale. Il faut que la France garde des choses, garde à tout prix. Les musées français sont très riches en général. Acheter une œuvre, oui, mais si ça change vraiment, si ça change vraiment la qualité de la collection, il y a des musées qui achètent tellement de petites choses qui sont très jolies, mais qui devraient laisser à des collectionneurs. Même les prendre en don, ça n'a pas toujours beaucoup de sens, parce que si on s'imagine que les musées sont là pour l'éternité, combien d'œuvres dans 200, 300, 400 ans, combien d'œuvres ils vont avoir? Ils n'auront jamais les moyens d'exposer, là je parle des tableaux, tout ce qu'ils achètent, ça finira par pourrir dans les réserves. Et en dessin, y a déjà des collections pléthoriques en France, il y a des manques, donc c'est très bien de remplir les manques, ou des choses très importantes qui doivent rentrer. Mais le tout venant, c'est sûr que ce n'est pas toujours nécessaire de les acheter. Ou acheter une œuvre importante juste parce qu'elle est importante, alors qu'il y a main dessin du même artiste au Louvre ou dans d'autres musées. Je pense pas à un dessin en particulier, même si je vois le sourire de Didier Rickner, mais il y a beaucoup d'exemples, de dessins qui ne seraient pas nécessaires à acheter. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples de dessins où le dessin le plus récent qui a été acheté par le Louvre, le dessin de Jacques Bellange, est un dessin magnifique. Le Louvre n'avait pas beaucoup de beaux Bellanges, et ça, c'est un des plus beaux exemples. Un dessin de jeunesse, en très bon état, préparatoire à une gravure. Et ça, c'est un achat formidable. Il y a d'autres qui sont peut-être moins nécessaires, mais voilà.
Alors, si les musées français achètent beaucoup, et c'est vrai, et tant mieux, moi je m'en réjouis, ils achètent des tableaux, mais ils achètent aussi beaucoup de dessins, parce que peut-être, parce que le marché français est certainement, comme vous l'avez dit, en Angleterre, plus beaucoup de collectionneurs, donc un marché qui diminue. Je crois qu'il y aura plus de ventes de dessins à Londres, en tout cas chez Christie's, si je ne me trompe pas. À New York, beaucoup de collectionneurs, et à Paris, des collectionneurs, en tout cas, et le Salon du Dessin, ça je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui a créé une espèce d'appétence en France pour le dessin. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? D'ailleurs, un Salon du Dessin que vous ne faites pas, d'ailleurs, pourquoi?
Alors, c'est beaucoup de questions. Pourquoi je ne fais pas le Salon du Dessin? Parce que j'ai une galerie, les gens viennent dans ma galerie, et je fais une exposition qui fonctionne, et donc, pour l'instant, je n'en sens pas le besoin. Et il y a peut-être des différences aussi. Quand j'ai un collectionneur qui vient dans ma galerie, il reste 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, et il garde vraiment les dessins. Il sort avec quelque chose ou avec quelque chose, sans rien, c'est pas le problème. Mais au moins, il garde vraiment le dessin. Au sein du dessin, moi-même, j'y vais. Et moi-même, ben, je rentre dans un stand, je reste 3 minutes, je vais dans le stand suivant. J'ai pas le temps de bien garder les dessins, j'ai pas le temps de bien parler aux gens. Et à la fin, je me souviens plus de plus grand-chose, en fait. Donc, c'est une expérience différente. C'est, l'un n'est pas mieux que l'autre, mais de mon point de vue à moi, ça marche comme ça, donc aucune raison de changer.
En tout cas, ça, le Salon du Dessin a incontestablement dynamisé le marché du dessin en France.
Quand je suis entré chez Christie's en 93, le centre du monde pour le marché du dessin, c'était... Sans aucun doute, c'était Londres. Il y avait traditionnellement, depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les plus grands marchands, il y avait Sotheby's, Christie's faisait 3 ventes. New York, il y avait une vente par an. Même s'il y avait beaucoup de collectionneurs, il n'y a jamais eu beaucoup de marchands à New York. Et à Paris, ça restait un marché beaucoup plus compliqué. Il y avait les ventes de droits très mélangées. Mais la façon dont ils étaient organisés, c'était plus fait pour des marchands que pour des privés. Et il y avait pas mal de marchands à Paris, mais c'était des petits marchands. Mais lentement, avec les années, aidés par le Brexit certainement, beaucoup des marchands de Londres ont fermé. Et maintenant, il y a encore 2-3 marchands à Londres. Et ça s'est transféré beaucoup à Paris, en grosse partie certainement grâce au Salon du Dessin, qui aujourd'hui fédère tous les plus grands marchands, les plus grands collectionneurs, les plus grands conservateurs du monde, qui viennent à Paris au mois de mars pour visiter les salons et qui achètent vraiment. C'est-à-dire, c'est un événement où les gens se rassemblent, discutent du dessin, regardent, mais où tout le monde, y compris moi qui n'en fais pas partie, mais profite du salon pour vendre des dessins. Donc, avec les années, maintenant, le centre du dessin est à Paris, et c'est aussi à Paris maintenant qu'il y a le plus de marchands.
Est-ce que le Brexit a contribué à diminuer en dehors de l'absence de collectionneurs à Londres? Étonnante d'ailleurs, pourquoi il y a si peu de collectionneurs à Londres? Est-ce que ça a contribué à l'affaiblissement du marché londonien au profit de Paris?
Oui, sûrement, parce que tout est plus compliqué pour un marchand pour acheter un dessin, pour un collectionneur. Les choses bougent. Maintenant, on ne peut plus prendre un dessin sous le bras. Il faut prendre un transporteur. Il faut payer une taxe à l'importation. Enfin, tout est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, ça freine un peu le marché. Ça freine un peu le marché, oui.
Par rapport... alors, maintenant, il y a un collectionneur, il va aller acheter. Il peut aller acheter chez un marchand. Dans les salons, évidemment, mais c'est quand même chez un marchand. Ou aux enchères. Quelle est la différence entre... Vous avez travaillé comme... dans les ventes aux enchères, maintenant vous êtes marchand particulier. Pour un acheteur, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut acheter partout? Alors évidemment, vous allez dire qu'il faut acheter chez vous, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut acheter partout? Alors ça, il y a les œuvres identifiées chez les marchands, dans les grandes ventes aux enchères. Puis il y a aussi toutes ces ventes aux enchères partout, en France et dans le monde. Avec maintenant l'Internet, on trouve des choses, beaucoup de marchands trouvent des choses un peu partout et attribuent. Donc c'est un marché finalement très dispersé.
Oui, en tant que
vendeur et en tant qu'acheteur.
Si on prend le point de vue du collectionneur, c'est aussi beaucoup une question de mentalité. Il y a des collectionneurs qui aiment bien acheter que en vente parce qu'ils ont l'impression que c'est qu'ils font le meilleur affaire puisque c'est un prix du marché, parce que c'est acheteur contre acheteur. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on peut acheter contre une réserve ou c'est un marché où il y a très peu d'acheteurs, donc ça peut être artificiel. D'autres collectionneurs qui pensent que la relation avec le marchand est la plus importante et qu'on trouve plus de choses chez les marchands, donc ils n'achètent quasiment que chez les marchands. Moi, je dis toujours aux collectionneurs qu'il faut regarder partout, marchand et salle de vente, et essayer de trouver quelque chose qui convienne. Ensuite... Ce dont vous parlez, c'est toutes ces petites ventes qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, annoncées sur Interenchères ou sur différents sites, où les choses sont plus ou moins bien cataloguées. C'est vrai que beaucoup de marchands achètent dans ce genre de vente, et beaucoup de collectionneurs veulent s'y mettre aussi. Mais c'est aussi une chose qui est beaucoup plus risquée, parce qu'on ne voit pas l'œuvre. Les choses sont souvent mal attribuées, donc comment savoir si l'attribution est bonne ou pas bonne? Le marchand prend un risque à l'achat. Il y a des collectionneurs qui sont prêts à prendre des risques, d'autres moins, mais ça, c'est encore une façon différente d'acheter. C'est-à-dire que on prend plus de risques, et pour moi, la prise de risque est plutôt une chose qui serait plus adaptée au métier de marchand qu'au métier de collectionneur. Et aujourd'hui, je pense, je dis toujours ça aux collectionneurs, si un beau dessin, ça coûte un peu d'argent, il n'y a que comme ça qu'on peut faire un peu d'argent par rapport à ce que c'est. Enfin, les choses ont un prix, donc ce n'est pas parce qu'on achète un dessin à 1 million qu'il sera mieux qu'un dessin à 100 000, ou on pense que... Mais chercher à faire des affaires à tout prix n'est pas une solution pour collectionner. Et généralement, les collectionneurs qui font des collections en voulant faire des affaires, ça se voit à l'arrivée. C'est-à-dire que les dessins ont tous des petits défauts, ils ne sont pas aussi jolis qu'on pourrait l'espérer, c'est pas assez caractéristique, c'est pas en bon état, l'attribution n'est pas complètement sûre. Et une collection comme ça, ça tient pas toujours la route. C'est-à-dire une collection... On peut avoir des choses un peu comme ça, mais c'est principalement des beaux dessins qui tiennent la route du point de vue d'attribution, en bon état, etc., etc.
Il faut acheter ce qu'on aime, en fait.
Il faut acheter ce qu'on aime, et en réfléchissant bien. L'avantage des marchands, c'est celui-ci, c'est qu'on peut aller voir le marchand, discuter, regarder la chose, la réserver, y penser, l'acheter ou pas l'acheter. Et en effet, il faut acheter ce qu'on aime. Il ne faut pas chercher une affaire à tous les coups. Et ça, c'est un peu un problème qu'ont beaucoup de collectionneurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent faire une affaire.
Et les dessins que vous trouvez, avec l'apport d'Internet, qui quand même est de plus en plus fort, avant, vous étiez obligé d'aller sur place, donc vous aviez moins d'opportunités d'achat. Comment faisiez-vous avant Internet? Et aujourd'hui, alors c'est un avantage, c'est que vous voyez davantage de choses, mais c'est que tout le monde le voit. On a l'impression que pour certaines œuvres, et ça c'est intéressant aussi, ça prouve dire que le marché français est quand même très fort, parce que sur certaines œuvres qui sortent dans des ventes aux enchères, des petites ventes aux enchères, aux États-Unis, en Italie, n'importe où, en Europe, partout, quand il y a un dessin important qui sort, en général, il y a 2-3 personnes qui sont sur l'affaire, et il y a 2-3 marchands, ou 4 marchands, ou 5 marchands français, souvent, des marchands parisiens, il y a plusieurs marchands importants à Paris. Donc, c'est un marché finalement très concentré, et finalement, les découvertes sont-elles encore possibles ?
Oui, oui, les découvertes, on en fait tous les jours, mais on n'est jamais, comme vous dites, on n'est jamais seul à les faire, c'est-à-dire qu'il y a souvent, pas toujours, heureusement, 2-3 autres personnes qui l'ont vu, et aujourd'hui, quand on veut acheter en tant que marchand, quand on veut acheter un beau dessin, ben, il faut le payer, il n'y a pas autre solution. Quand j'ai commencé à être marchand, il y avait déjà Internet, qui était beaucoup moins fort, et c'est vrai qu'on pouvait encore, en 2005, 2006, 2007, être seul sur une chose qui était un peu une découverte. Aujourd'hui, ça arrive quasiment plus. Mais bon, il faut toujours essayer d'acheter. Et qu'on a un beau dessin, moi j'ai marqué en tant que marchand en tout cas, quand j'achète un beau dessin et même quand je surpaye, s'il est vraiment bien, je finis toujours par le vendre. Donc il vaut mieux acheter la qualité qu'essayer de faire une affaire et acheter un truc qu'on pense être pas trop cher.
Alors est-ce que dans le dessin il y a le risque, ça vous me répondrez si vous voulez ou pas, c'est que vous découvrez les dessins. Parfois vous les attribuez, et ils peuvent valoir davantage que ce que vous avez acheté. Est-ce que vous avez le risque de l'histoire de Poussin, moi, ce qui me choque toujours, cette erreur sur la substance, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas du tout ?
Alors, première chose, c'est que en tant que marchand, je ne gagne pas uniquement en faisant de l'attribution. Si des collectionneurs, c'est une parenthèse, viennent chez moi, c'est aussi parce qu'ils apprécient ce que je vais pouvoir leur montrer. Donc je peux très bien acheter un dessin bien attribué quelque part, en privé ou dans les salles de vente, et le montrer en adaptant le prix pour que je puisse gagner ma vie. Et ça, les gens peuvent le respecter parce qu'ils savent que chez moi, ils vont trouver tel type de dessin. Chez d'autres marchands, tel autre type de dessin. Donc ce n'est pas une question d'attribution. Le métier de marchand, heureusement, c'est aussi une question de goût. Et de montrer des choses que les gens peuvent envie d'acheter. Pour ce qui est du deuxième point, c'est-à-dire que le problème de la liaison de vente en dessin, j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce genre de choses. J'ai pas entendu parler de beaucoup de ventes qui auraient été annulées pour un problème d'attribution. Mais moi, comme tous les marchands, on n'achète pas qu'en France, on achète partout dans le monde. Et ça, c'est un problème spécifiquement français, ce problème d'annulation de vente si l'attribution n'est pas ce qu'il faut. Mais non, en dessin, c'est pas un gros problème.
Parmi les découvertes importantes que vous avez faites, alors peut-être même en remontant à l'époque de Christie's, est-ce que vous avez quelques souvenirs d'un ou deux dessins très importants que vous apportez comme rien et dont vous avez trouvé l'attribution et qui se sont vendus très cher ? Et comme marchand, est-ce qu'il y a des dessins dont vous êtes particulièrement fier récemment, ou des ventes à des musées éventuellement, ou à des particuliers bien sûr, dont vous êtes particulièrement fier ?
La première partie, c'est chez Christie's, évidemment, quand j'y travaillais, des dessins arrivaient tous les jours, la plupart anonymes, donc des attributions, on en faisait quasiment tous les jours. Des dessins qui viennent comme rien et qu'on a une bonne attribution et qui sont vendus pour très cher. Il y en avait des dizaines dans chaque vente, sinon plus. Donc me souvenir d'un truc en particulier, je ne pourrais pas, mais on doit prendre des catalogues de à l'époque où j'y travaillais, mais il y en a sûrement pas mal. Et
dans les dessins récents que vous avez vendus, par exemple.
Non, je ne me souviens pas de, je me souviens de rien de particulier. Oui, on
peut, alors, une acquisition dont je n'ai pas encore parlé sur la tribunal, mais dont je parlerai, qui quand même me semble très importante, en tout cas très importante pour le Louvre, qui a eu la sagesse de l'acheter, et c'est vraiment une belle acquisition pour le Louvre, c'est un album de dessin d'un peintre du roi.
Oui, de Louis de Boulogne. C'est une partie du fonds d'atelier de l'artiste. La moitié à peu près, en fait, un tout petit peu moins, avait été achetée par le Louvre dans les années 1840. Et l'autre partie avait été achetée par un collectionneur dans les années... Dans ces années, il restait dans la famille. Et j'ai eu la chance de pouvoir vendre cet album au Louvre récemment, qui est venu compléter le fond du Louvre. Je crois que le Louvre doit avoir, je sais plus très bien les chiffres, 200 dessins, et moi j'en avais 280, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement 80% de la production, ou 90% de la production de Boulogne est au Louvre. Ce qui est formidable pour la connaissance de Boulogne, mais ce qui est un peu triste, que maintenant, c'est des collectionneurs dans les années qui viennent, il n'y aura plus de Boulogne sur le marché. Alors que c'est un artiste qui c'est un très bel artiste, mais c'est pas non plus. Voilà.
Il aurait fallu, dans ce cas-là, oui, mais pour les disperser, il aurait fallu, ce que vous n'avez pas fait, heureusement, et ce qui est bien, casser ce fonds d'atelier. Remarquez, vous auriez pu le faire, puisque les dessins étaient. C'était un fonds d'atelier, donc ils ont été mis en album de manière un petit peu. Par les héritiers, enfin, c'est pas l'artiste qui a voulu faire ça.
Non, c'est le fils qui a dû mettre ça dans deux albums. Mais en fait, quand on regardait l'album que j'ai eu, c'était un mélange complet. Les dessins avaient été arrachés, recollés. Il y avait 400 dessins à l'origine, il n'y avait plus que 280. Enfin, c'était un album qui a dû être très bricolé. L'album du Louvre, évidemment, ils ont tout mis en montage et la reliure a été jetée. Donc, on ne sait pas très bien comment ça se présentait. Donc, ce n'était pas non plus une chose qui sortait tout droit de l'atelier. C'est sûr que ça aurait été assez dommage de casser l'album, donc c'est pour ça que j'ai proposé au Louvre en premier, en disant au Louvre qu'il avait, voilà, que comme on disait, de le revendre et de prendre le temps qu'il fallait pour y arriver, et grâce à Madame Descartes, on y arrivait relativement facilement.
Alors, moi qui collectionne plutôt le 19e siècle, on se trouve assez souvent des fonds d'ateliers d'artistes du 19e siècle. Récemment est passé un petit fond de Papetti. Bientôt va passer un petit fond de Borel, mais très petit, mais enfin voilà, des ensembles qui sont restés chez les descendants. Il y a beaucoup de descendants qui ont encore ça. Et finalement, on s'aperçoit que ça arrive aussi pour le XVIIe siècle, puisque vous l'avez vu pour Boulogne. Il y a récemment aussi tout un fond de dessins de Jean Daret qui sont sortis et qui ont été acquis par des musées, d'ailleurs, en partie. Je n'en ai pas encore parlé non plus sur la tribune de l'art. Par vous également et par
le marchand. On a acheté quelques-uns, oui, on est deux marchands à avoir acheté une petite quantité.
Donc ces fonds, on en mais trouve quand même beaucoup des fonds.
Moi, j'en ai eu deux en tant que marchand. J'ai eu un groupe de dessins de Hontorst, une cinquantaine de dessins de Hontorst, alors qu'avant on en connaissait qu'une trentaine. Les dessins n'étaient pas dans un album, donc ils sont venus en petites feuilles séparées. Donc j'ai fait une exposition et j'ai tout vendu à beaucoup à des privés, pas tellement à des marchands. Et j'ai un autre fonds de dessin de Soldani, Massimilio Soldani, le sculpteur florentin vers 1700. Et là, j'ai quasiment tout. J'avais fait un catalogue, mais les Uffizi sont venus relativement au début de l'exposition. Et à part les 400 dessins que j'avais déjà vendus, on rachetait tout. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc j'ai trouvé deux fonds. Mais c'est tout de même relativement rare de trouver des fonds de dessins avant 1800.
Je renverrai sur la page de l'émission aux brèves que j'avais consacrées au dessin de Hontorst à l'exposition, de Massimiliano Soldani Benzi, et également aux ventes au Busée. Vous aimez bien aussi, ça m'a toujours frappé, les petits dessins, les tout petits dessins. Vous aimez bien les carnets de dessins. Vous aimez bien les tout petits dessins. Vous aimez bien aussi un artiste de Vambèze. Vous aimez bien. Non, vous n'aimez pas
oui,
de Vambèze.
Oui, j'aime bien de Vambèze.
Vous avez des deux Vambèze, beaucoup de Vambèze.
Oui, mais j'ai des choses parce que je les aime bien. Enfin, quelquefois, je suis un peu obsessionnel, donc j'ai tendance à en acheter en quantité.
Messonnier aussi.
C'est Messonnier. Ça ne veut pas dire que c'est mon artiste favori. Ça veut dire, que je suis un peu obsessionnel. Mais pour faire ce métier ou pour être collectionneur, il faut être un peu obsessionnel. Sinon, on n'y arrive pas.
Quand je parle de petits dessins, des dessins petits par la taille. D'ailleurs, vous avez fait une exposition sur ce sujet.
J'avais fait une exposition sur les petits dessins parce que c'est vrai que. En dessous d'une certaine taille, les collectionneurs ne l'achètent plus, les musées n'achètent jamais. Et donc, c'est vrai que qu'on a un dessin qui fait, disons, un peu plus, la moitié d'une taille carte postale ou plus petit, ça intéresse personne. Donc, c'est vrai que si on va dans le petit dessin, on peut acheter des très, 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 très jolies feuilles pour des prix plus que modiques. Évidemment, après, il faut une loupe pour les regarder. Mais on peut trouver des très, très jolies choses. Et j'avais fait, en effet, une exposition d'une cinquantaine de tout petits dessins, et j'avais fait un catalogue miniature où j'avais tout reproduit taille réelle. Et bon, ça, l'exposition a très bien marché, j'ai pu récupérer mes sous.
Et une exposition que vous avez faite récemment aussi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'exposition de dessins allemands. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent des dessins allemands en France, même peut-être à l'étranger.
Même les Allemands, donc vous imaginez. Mais les Allemands vendent très peu ce genre de choses, parce qu'il y a très très peu de marché pour le dessin allemand. Alors évidemment, si vous avez des dessins 16e, c'est très facile à vendre, des dessins romantiques aussi, mais c'est un peu la période entre les deux, c'est-à-dire 1600-1760 qui est un peu difficile à vendre. Mais moi, le dessin allemand m'a toujours intéressé, j'ai toujours vendu des dessins allemands, et il y a 5-6 ans, je me suis dit que j'avais déjà quelques dessins baroques allemands, que j'allais un peu garder ce que j'avais, en trouver plus, et faire une exposition, ce que j'ai fait... en novembre dernier, j'avais rassemblé 50 dessins baroques allemands. C'est une chose qui n'a jamais été faite par un marchand, mais même en France, par un musée non plus. Et j'ai, contrairement à ce que je m'attendais, je m'attendais que ça marche très moyennement, ça a plutôt assez bien marché, même si finalement, dans le monde, il n'y a qu'un seul collectionneur de dessins baroques allemands. Qui est un type très sympathique qui habite à Augsbourg. Il m'a acheté 3-4 feuilles et sinon les musées n'ont rien acheté.
Ça m'a d'ailleurs un peu navré de voir que...
Ça m'a navré aussi, oui, le Louvre entre autres qui a quelques manques dans ce groupe-là et qui aurait pu... la plupart de mes dessins, j'en demandais entre 3000 et 10 000, donc il y a beaucoup de musées qui auraient pu compléter des collections pour un prix modique. Donc les musées ont très peu acheté, mais finalement il y a un enthousiasme, les gens ont aimé l'initiative, il y avait quelques jolies feuilles, et donc finalement j'ai plutôt assez bien vendu, et je vais continuer à en acheter parce que j'aime ça, mais bon.
Est-ce que vous pouvez déjà dire ou pas une ou deux expositions? Alors vous faites des expositions régulièrement, en tant qu'au moment du salon de dessin avec des varias, si on veut juste dire, une exposition spécialisée, donc un fond d'atelier, ou alors éventuellement des dessins plus allemands ou italien, italien, vous en vendez beaucoup, des dessins italiens, des dessins bien précis, peut-être des dessins, je ne sais pas, moi, Prague, de Bohème, pourquoi pas, est-ce que... Vous en avez un peu, d'ailleurs, dans votre collection de...
Oui, ouais, bon. Allemand, ça veut dire au sens large, c'est-à-dire Europe centrale, dans Bohème. Non, enfin, ça dépend de ce que je peux trouver. Là, c'est vrai que les dessins allemands, ça fait quelques années que je les gardais, mais là, pour l'instant, ça dépend s'ils sont sur un fond ou quelque chose, c'est une question d'opportunité.
Alors, en faisant ces expositions, vous faites des catalogues, toujours, et alors, vous n'allez pas aimer le terme, parce que je sais qu'on a cette discussion souvent, vous faites, pour moi, œuvre d'historien de l'art. D'ailleurs, vous écrivez des livres, vous avez publié un livre sur, si je ne me trompe pas, Pietro Facchini. Je me trompe ?
J'ai écrit un livre...
C'est pas Facchini.
Non, c'est pas complètement faux. J'ai écrit un livre sur Ferraou Fenzoni, illustre inconnu, qu'il est toujours après publication, et en novembre... un livre sur Facchini.
Ouais, donc ça, vous allez
lui est à venir, et l'année prochaine un autre sur avec Marco Bolzoni, Catherine Gogel, sur les dessins 14 années des dessins de Salviati.
Vous avez fait des expositions également, commissaire d'exposition,
oui,
à Rennes,
ouais.
Notamment sur les dessins italiens dans les collections privées particulières, vous, avec Patrick Ramad. Vous allez faire...
J'en ai fait une à Chicago aussi,
sur
les dessins italiens.
Vous préparez une exposition sur les dessins français dans les questions particulières au 17e, 18e, avec Patrick Ramad, qui aura lieu à Amiens, je pense qu'on peut le dire.
C'est avec Pierre Stepanoff, exactement.
Avec Pierre Stepanoff.
Au contraire, ce n'est pas un secret, c'est un appel même.
Voilà.
Si vous avez des beaux dessins français de 17-18e, on serait ravis de...
Pour quelle année ?
On fait une exposition, c'est 2026... l'exposition, c'est à peu près du seconde école de Fontainebleau jusqu'à David exclu, et on compte mettre probablement 150 dessins ou un nombre similaire, parce que sinon ça serait un peu gâché le sujet d'en mettre moins. Et ça sera pour 2026.
Donc là, moi je dirais que vous faites œuvre d'historien de l'art et vous vous récusez ce terme.
D'abord, je ne suis pas historien d'art, je suis ingénieur commercial.
Et comme moi, je suis ingénieur agronome.
Voilà, exactement, entre ingénieurs. Et deuxièmement, non, je pense que l'histoire de l'art, c'est autre chose. Ce que je fais, c'est plus du connaisseurship, c'est-à-dire dans mon travail de marchand de dessin, c'est plus un travail d'attribution. Ensuite, j'écris des notices pour mes catalogues, j'écris souvent des notices pour qu'on me demande dans différents musées ou pour les expositions que j'ai organisées. Mais encore une fois, les notices que j'écris, c'est des notices qui sont vraiment là pour justifier l'attribution ou pour expliquer l'attribution ou expliquer l'importance de l'œuvre. Donc tout ce que j'écris, c'est en rapport précis avec un dessin. C'est pas des choses générales ou des choses comme ça. Et je serais parfaitement incapable d'écrire un livre de 300 pages sur telle ou telle chose. Alors je peux à la rigueur faire une introduction qui fait 15 ou 20 pages, et encore, c'est le maximum d'une capacité. Si j'avais été historien d'art, je pense que je serais parfaitement capable d'écrire un livre de 300 pages sur un sujet que je connais, ou le dessin italien, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que j'en suis capable. C'est un travail différent.
Comment faire de l'histoire de l'art ?
Et le connaisseurship et l'histoire de l'art, c'est deux choses différentes.
Pour moi, le connaisseurship est inclus dans l'histoire de l'art, parce que non. Comment faire de l'histoire de l'art ? Je termine. Comment faire de l'histoire de l'art si vous travaillez sur... Et je pense qu'il y a des historiens d'art qui le font, parce qu'ils ne regardent pas les œuvres. Travailler sur des œuvres qui ne sont pas de l'artiste. Donc ça me paraît important de savoir que c'est de l'artiste. Et après, évidemment, il faut... L'histoire de l'art, c'est aussi de la replacer dans son contexte, de l'expliquer, de voir plus haut et plus loin. Mais on commence par une œuvre, et il faut l'expliquer.
Les deux vont ensemble.
Oui,
moi, je lis beaucoup. Je regarde souvent les images, mais ça m'arrive de lire aussi des livres d'histoire de l'art, où j'apprends toujours beaucoup de choses. Et de même que les historiens d'art, ils ont besoin de la justesse des attributions pour écrire. Mais c'est deux choses qui vont la main dans la main. Mais c'est deux choses différentes. C'est une façon différente de regarder les œuvres ou une œuvre. On en a assez souvent parlé, mais je pense qu'il n'y a quasiment personne qui soit à la fois un très bon historien d'art et un très bon connaisseur. On connaît tous, on pourrait nommer plein des très bons historiens d'art. Jacques Tullier, par exemple, il n'était pas connu pour être un grand connaisseur. C'est un des meilleurs historiens d'art en France. Et on connaît d'autres personnes qui sont des très très bons connaisseurs, mais c'est pas des écrivains, c'est pas des gens qui peuvent écrire, c'est pas des gens qui peuvent expliquer. C'est deux choses différentes, mais qui doivent être la main dans la main.
Bon, moi j'appelle tout ça l'histoire de l'art. Il y en a qui sont plus œuvres et d'autres plus réflexions. Mais bon, c'est une question de terme.
Oui, c'est qu'ils ont le terme, mais en France, le terme de connaisseurship, qui est curieusement un terme anglais, c'est un terme qu'on ne comprend pas très bien.
Alors justement, et voilà, j'allais venir,
c'est un terme anglais.
Expliquez-nous le terme connaisseurship et dites-nous pourquoi, pas seulement de votre opinion, mais beaucoup de personnes, quelques connaisseurs que je connais, disent que ça se perd et il faudrait presque l'enseigner, il faudrait presque l'expliquer. Vous avez dit au début de l'émission que finalement, attribuer, c'est une question de... C'est une question de travail et d'aimer cela. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, sauf qu'on a l'impression qu'il y en a de moins en moins de personnes qui voient les œuvres et qui les comprennent.
Et j'ai aussi dit qu'il faut rencontrer les bonnes personnes. C'est-à-dire, c'est très, très utile de discuter avec quelqu'un d'autre d'une attribution, d'un dessin, garder des dessins ensemble. Et c'est comme ça que le connaisseurship peut se transmettre. L'enseigner, oui, c'est toujours possible, mais... Je ne saurais pas comment m'y prendre pour l'enseigner, mais c'est une façon de garder la chose, une façon de l'expliquer, d'expliquer ce qu'on voit, de montrer des détails d'un dessin. C'est une foule de petits détails. Mais c'est vrai que c'est une chose qui se transmet de personne en personne. Et si ce n'est pas une chose qui s'enseigne vraiment à l'université, c'est peut-être dommage, peut-être qu'il faudrait le faire, ou trouver un moyen de le faire, ou au moins d'expliquer ce que c'est. Mais c'est vrai que si... il n'y a personne pour transmettre ceci, c'est une chose qui risque de se perdre. Déjà, quand on voit en Amérique aujourd'hui, il n'y a plus tellement de très bons connaisseurs, alors qu'il y en a eu, des très très bons. Il y a encore quelques musées qui ont des très bons, là je parle uniquement de dessin, quelques musées qui ont encore des très bons connaisseurs, mais de moins en moins. Aujourd'hui, ce que les musées américains veulent, c'est des gens qui font des expositions, qui font des acquisitions qui sont faciles, préférons aux artistes femmes, des gens qui font pas de bruit. Et voilà, la connaissance n'est pas toujours une chose, en tout cas dans les musées américains, qui est toujours appréciée. Heureusement, en France, il reste, ou en Europe plutôt, il reste encore quelques personnes qui connaissent bien. En Italie, par exemple, moi, je connais beaucoup de jeunes historiens d'art italiens. Il y a encore là, je viens de me tromper. Enfin, quelques jeunes italiens qui sont des très bons connaisseurs.
Voilà, historien, là, vous l'avez dit.
Oui, mais ils sont historiens d'art, parce que c'est une formation. On peut pas. Moi, je ne suis pas historien d'art, mais la plupart de ces jeunes, ils ont fini sur de l'art. Ils ont choisi de se tourner plutôt vers le connaisseurship qu'une espèce de connaissance pure. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont très bons, il y a quelques Français qui sont bons, mais c'est vrai que c'est une chose qui a tendance à plutôt disparaître. Et on dit souvent, en partie avec raison, qu'on peut encore trouver beaucoup de cette pseudo-science ou science chez les marchands, parce que c'est vrai que les marchands en ont besoin pour vivre.
Alors, c'est vrai qu'en Italie, il y en a beaucoup qui sont très bons, mais souvent ils sont très bons sur le dessin italien. Ou sur l'art italien en général, et qu'en général, dès qu'on sort d'Italie, ils sont nettement moins bons. Et ça, je le vois par exemple sur les groupes Facebook.
Ils sont nettement bons, ils sont complètement nuls.
Voilà.
En dehors du dessin italien, et même, ils sont souvent très spécialisés dans une période ou une école ou une ville ou quelque chose comme ça. Oui.
En France, les gens sont un peu plus. Ils connaissent bien le dessin italien. Enfin, il y en a qui connaissent bien le dessin italien, le français, le nordique. Enfin, il y a plus quand même une ouverture plus grande, large sur le monde du dessin.
Oui, c'est sûr qu'en France, on s'intéresse beaucoup au dessin français, évidemment, et aussi beaucoup au dessin italien, beaucoup moins au dessin nordique, malheureusement. Mais oui, c'est vrai. Alors que les Anglais, du temps où il y avait beaucoup de bons connaisseurs, s'intéressaient un peu à tout aussi.
Est-ce qu'il y a, dans le monde du dessin, si les gens sont un peu moins bons, s'il y a un peu moins de connaisseurs, est-ce qu'il y a des faux ? J'ai longtemps cru qu'en peinture ancienne, c'était très difficile de faire une peinture ancienne fausse. C'est un faux fait pour tromper, parce qu'on reconnaissait toujours... Et puis, il y a eu quelques affaires récemment, avec des faux présumés, en tout cas très, très crédibles. Est-ce qu'en dessin, je crois qu'il y a beaucoup de faux en dessin, et est-ce que c'est un vrai problème pour le marché du dessin ou pas vraiment ? Le dessin ancien, je parle.
Ouais, le problème du faux, par définition, c'est que... On peut toujours parler du faux dans les temps anciens, mais le faux dans le temps présent, c'est toujours beaucoup plus compliqué à détecter, parce que le faussaire réussit souvent à s'adapter exactement aux demandes du marché, et donc le marché a envie de croire certaines choses. Il y avait toute une série de gouaches sur velin, beaucoup données à Hans Hoffmann et à d'autres qui étaient sur le marché il y a 15 ou 20 ans. Et c'était pas complètement crédible, le marché avait envie d'y croire parce que c'était des choses très rares, très jolies, très mignonnes, plein de petits animaux super mignons, donc tout le monde avait envie d'y croire. Et maintenant, je pense qu'il y a un consensus que tous ces dessins sont pas bons, mais à l'époque, il y avait un consensus qu'ils étaient plutôt bons, et il y en a qui sont vendus extrêmement cher. Il y a eu pas mal de faussaires depuis 30 ou 40 ans, un des meilleurs est Eric Eborn, mais il y a d'autres faux que j'ai vu plus récemment sur le marché. Et c'est un faussaire qui, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une figure dans un tableau, la copie, mais le problème de ce faussaire-là, c'est qu'il n'arrive pas à imiter le style de l'artiste que Eric Eborn arrivait à faire. C'est-à-dire qu'il reprend juste la figure, et ce que ce faussaire fait ensuite, et ça c'est très important en matière de faux, c'est pas seulement faire le faux, mais c'est le vendre. Et donc, ce que ce faussaire-là fait, c'est qu'une fois qu'il a fait son faux, il le vend comme un dessin. Et donc, évidemment, dès que le connaisseur ou l'historien d'art ou ce que vous voulez retrouve la connexion avec le tableau, bah, c'est merveilleux, le dessin devient préparatoire. Il ne réfléchit pas toujours au fait que stylistiquement, ça ne correspond pas. Il y a eu un dessin comme ça sur le marché il y a quelques années de Pontormo. Et le dessin, esthétiquement, n'a rien à voir avec Pontormo, mais il est préparatoire, et le dessin s'est vendu assez cher, et a disparu du marché d'ailleurs. Mais donc le problème des faux, oui, il faut faire attention, il y a des faux qui traînent, plus ou moins bons, mais en ce moment précisément, je ne pense pas que ce soit un gros problème, mais évidemment, ça devient, c'est un, ça c'est pas un problème tant qu'on s'en aperçoit pas.
Et pour conclure, donc, on a vu que le connaisseurship diminue un petit peu, mais qu'on pouvait quand même, en étant passionné, avoir un œil, qu'il y avait de très bons marchands, notamment à Paris, qui avait le Salon du Dessin. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Parce que l'important, c'est de susciter des collectionneurs. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, que ce soit dans n'importe quel pays, mais en France, il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent. Et finalement, il n'y a pas tant de collectionneurs, de grands collectionneurs, en tout cas de collectionneurs qui achètent très cher. Il en faut aussi, il y a plein de collectionneurs qui achètent. Quel conseil donneriez-vous finalement à quelqu'un qui a un peu d'argent et qui souhaiterait faire une collection et qui s'intéresserait à l'histoire de l'art, mais sans être vraiment lui-même un connaisseur? Quel conseil? D'aller chez vous, bien sûr, évidemment, mais encore.
De regarder partout, de prendre quelques risques de temps en temps, sachant que quand les collectionneurs, bien, si on se fatigue, on peut toujours revendre l'œuvre, on gagne, on perd. Non, regarder partout, parler au plus de monde possible, se remettre en question, pas chercher à faire des affaires obligatoirement, mais acheter des belles feuilles, être ouvert, aller voir les expos. Il y a plusieurs associations à Paris qui s'occupent du dessin. Il y a celle des Beaux-Arts, il y a Bella Maniera, il y a l'association des historiens de l'art italien en France, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, ou qui rassemblent un certain nombre de personnes qui s'intéressent au dessin. C'est une bonne manière de rencontrer des gens, et des historiens d'art. Acheter des livres, faire des recherches, voilà.
Acheter des livres, c'est important, parce que les livres d'art se vendent de moins en moins bien.
Oui, oui, alors c'est sûr que sans les livres, sans les livres, il y a beaucoup de gens croient vraiment beaucoup à Internet, et c'est vrai que Internet, il y a énormément d'informations, mais le problème d'Internet en général, c'est que l'Internet lâche des informations brutes, sans explication, sans rien. Alors si on sait ce qu'on cherche, on le trouve, et si on ne sait pas ce qu'on cherche, c'est même pas la peine de commencer, et en plus l'information sans explication, ça ne sert absolument à rien. Donc les livres, eux, donne l'explication et donne une unité à la connaissance qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas en cherchant sur Internet. Donc oui, les livres sont très très importants. Et les livres, en plus, coûtent de moins en moins cher, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui en veulent, donc on peut trouver assez facilement sur différents sites des livres sur le dessin ou le tableau. Donc oui, pour un collectionneur, bien se renseigner, aller regarder un peu partout, prendre des risques, ne pas chercher à faire des affaires, et puis t'entends faire le point, voir un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et ça prend toujours quelques années. Au début, on est un peu hésitant, mais après 2, 3, 4, 5 ans, la plupart des collectionneurs, j'en connais beaucoup qui ont commencé, trouvent un peu une direction, et puis après ils continuent dans cette direction.
Merci donc Nicolas Chouette de nous avoir donné toutes ces informations sur le monde du dessin, sur le marché du dessin, et en espérant que cela suscitera des vocations parmi nos auditeurs. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission de l'Invité de la Tribune de l'Art. Merci.
Merci.